18h15 dans le studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Bienvenue dans le forum de Studio Kalangou, dont le thème est aujourd'hui « Comment faire face aux violences basées sur le genre dans le contexte du COVID-19 ?» Les violences basées sur le genre sont courantes dans le monde entier. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, environ une femme sur trois dans le monde a été victime de violences fondées sur le genre à un moment donné de sa vie. Selon les Nations Unies, environ 35% des femmes dans le monde entier ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles. Ici au Niger, l'enquête nationale de violences basées sur le genre de 2015 révèle que toutes les formes de violence basées sur le genre existent au Niger. Alors, qu'entend-on par violence basée sur le genre? Quelles sont les principales formes de la violence à l'égard des femmes ici au Niger? Quelles sont les plus fréquentes dans le contexte du COVID-19? Comment y faire face? Ce sont à ces interrogations et à bien d'autres que nous tenterons de trouver réponse au cours des 45 minutes à venir. Pour ce faire, nous recevons dans ce studio Mme Tamponé Safiatou. Elle est directrice promotion du leadership au ministère de la promotion de la femme et la protection de l'enfant. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Monsieur Sidikou Amadou, il est psychologue clinicien au service psychiatrie de l'hôpital national de Niamey. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et nous avons au téléphone Monsieur Alzouma Traoré, chargé des programmes à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, SOS FEV. À la présentation, c'est Nafis Adam Sirfou. Merci, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence dans ce studio. Alors, Madame Tamponé, je commence par vous. Qu'est-ce que la violence basée sur le genre?
La violence basée sur le genre, c'est tout acte nuisible et perpétré sur une personne et qui est basé sur les différences sociales entre l'homme et la femme.
Et comme je le disais plus haut, l'enquête nationale de violence basée sur le genre a relevé que toutes les formes de violence existent ici au Niger. Alors, pouvez-vous nous rappeler les principales formes de ces violences documentées ici au Niger?
Ok, merci. Effectivement, le Niger a effectué en 2015 une étude sur l'ampleur et les déterminants des violences basées sur le genre. Et cette étude, vraiment, elle a fait ressortir des résultats. Et il dit qu'au Niger, 53% des Nigériens ont suivi au moins un cas de VBG au cours de leur vie. Et les violences basées sur le genre, sur le plan national, tournent autour de 28,4%.
Mmh.
Et les violences au niveau des femmes, c'est 60% et les hommes 44%.
44%.
Sinon, il a également fait ressortir les différentes formes de violences basées sur le genre. Nous avons les violences politiques, les violences économiques, les violences culturelles, les violences psychologiques. Et toutes ces violences d'ordre économique, social, culturel, mm-hmm. psychologique, touche toutes les catégories de la population.
Mmh.
Et ces actes vraiment violent un certain nombre de textes qui protègent ces droits humains-là.
Oui, effectivement. Oui,
tels que les conventions, le code pénal, en tout cas plusieurs textes et politiques également, mmh. qui sont comme la PNG et autres.
Et quand on parle du genre, de qui on voit la femme en premier lieu?
Les femmes sont beaucoup plus victimes,
mmh.
et les hommes, il est ressorti que les hommes sont les, dans la plupart des cas, des auteurs.
Mmh.
Et vraiment, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus victimes de ces différentes formes de violence.
Et selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cela?
Ce qui explique cela, il y a l'homme, et c'est l'homme qui est maître de la maison.
Mmh.
Et donc, il a l'autorité. Et la femme, et il a beaucoup plus de pouvoir économique que la femme. Donc, tout ça, là, peut entraîner vraiment
toutes
les
violences.
Oui,
faites sur les femmes.
Sur les femmes.
Monsieur Alzouma Traoré, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes chargé des programmes à l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Merci de rester au bout de la ligne pendant ces 45 minutes. Comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes là pour parler des violences basées sur le genre dans le contexte du Covid au Niger et comment y faire face. Alors, vous êtes chargé de programme à l'ONG SOS Femmes et Enfants. Une étude des Avocats sans frontières estime que la violence basée sur le genre est une forme de discrimination et se définit notamment comme la violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Êtes-vous de cet avis?
Oui, tout à fait, parce que la définition, en tout cas, qu'on peut faire de violence aux femmes, c'est cela, c'est tout acte de violence au cours duquel une personne utilise contre la femme, la jeune fille, la force, la contrainte, la menace ou l'intimidation pour promouvoir des relations hiérarchisées de domination. Donc, vous voyez, vous conviendrez avec moi que toute forme de violence, quand même, c'est considéré comme étant une atteinte aux droits de la femme, tout simplement parce qu'elle est femme, parce qu'elle est vulnérable, parce que, comme on le dit, c'est le sexe faible. Donc, je suis d'avis avec cette définition qui a été donnée.
Et justement, votre ONG lutte contre ces violences faites sur les femmes. Dites-nous, quelle est la situation que vous pouvez faire? Quelle est la situation au Niger? Comment vous analysez la situation?
Bon, au Niger, d'une manière générale, les violences faites aux femmes, quand même, c'est une réalité. Et je pense que nous sommes tous unanimes par rapport à cela. C'est vrai, dans le passé, c'était une situation qui n'était pas acceptée par tout le monde, mais à l'heure actuelle, quand même, on s'accorde autour du fait que c'est un fléau aujourd'hui qui est présent dans nos sociétés et c'est un fléau aussi qui mine, en tout cas, le développement de notre pays, parce qu'il y a une frange de la population de notre pays, une frange active quand même, qui, par ces violences-là, n'arrive pas à jouer pleinement le rôle qu'ils doivent jouer. Donc, ce qui nous amène à dire que vraiment, la violence faite à la femme est un fléau social aujourd'hui.
Donc c'est une réalité et chaque jour vous recevez des cas, vous êtes sur le terrain. Dites-nous quelles sont les formes de violence auxquelles vous faites face chaque jour que Dieu fait.
Bon, chaque jour on en reçoit quand même d'une manière générale. On sait que il y a le viol qui est quand même une forme de violence et il y a aussi des agressions sexuelles. Parce que là, il faut faire la différence entre le viol et l'agression sexuelle. Le viol étant tout acte de pénétration sexuelle anale buccale. Donc, et l'agression sexuelle, c'est tout simplement, ça peut être considéré comme par exemple le harcèlement, les attouchements. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment victimes de ce genre de violence, surtout sur le lieu de travail ou bien. Et à l'école, les jeunes filles à l'école. Donc voilà pourquoi cette forme de violence est beaucoup présente.
D'accord.
Il y a aussi les agressions physiques, donc c'est le coup de blessure volontaire. Il y a le mariage précoce et le mariage forcé, qui sont aussi des formes qui sont récurrentes. Il y a aussi le déni de ressources et d'opportunités. Là-dedans, on met tous ceux qui ont violence politique, donc le fait de refuser à une femme soit d'occuper un poste ou bien de faire une activité ou de militer dans un parti ou dans une association. Donc, on met tout ça là dans les données de ressources. Et puis, les violences psychologiques, c'est la frange la plus importante parce qu'elle est insidieuse. Des fois, elle n'est pas visible, mais quand même, elle atteint la femme tout au fond,
de sa personnalité.
Au point fond de son âme. Donc, voilà les différentes formes de violence que. Le système des Nations Unies a répertorié. Et par rapport à toutes ces formes, nous en recevons. même s'il y a certains communes qui sont beaucoup plus présentes que d'autres.
D'accord. Nous allons revenir vers vous, M. Alzouma, le temps de donner la parole à M. Sidikou. Vous êtes psychologue clinicien au service psychiatrie de l'hôpital national de Niamey. Des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, autant de violences dont M. Alzouma vient de citer et que, dont sont victimes les femmes ici au Niger. Dites-nous, qu'est-ce qui expliquerait ces violences faites sur les femmes?
D'accord, merci. Maintenant, pour ce qui expliquerait ces violences, c'est le fait que déjà les rapports hommes-femmes, parfois ça devient très conflictuel, voire une incompréhension des uns et des autres. Mmh. Et la femme étant plus vulnérable et l'homme ayant l'autorité, donc parfois la manière de s'accepter devient difficile et ça peut provoquer des violences. Mmh. Et ces violences, on peut les résumer en violences d'ordre physique, les violences, l'agressivité verbale aussi dans le couple, ça c'est aussi une forme de violence qui peut même conduire à un traumatisme. Il y a dans la vie de tous les jours, parfois il y a le harcèlement sexuel aussi.
Effectivement.
Donc en dehors du harcèlement sexuel, il y a aussi d'autres violences comme les agressions sexuelles, comme le viol par exemple. Donc tout ça, là, ça fait partie des violences qui sont faites dans les rapports hommes-femmes.
Mm-hmm. D'aucuns disent que certains auteurs de ces violences ont peut-être des problèmes mentaux. Est-ce que cela, on peut relativiser cela?
Oui, ça peut être dit à des difficultés psychologiques, comme beaucoup de personnalités sont des personnalités caractérielles. Mmh. Et par exemple, si l'homme et la femme ont des personnalités différentes, qui ne sont pas concomitants, donc ça peut provoquer en tout cas ce genre de violence parce qu'il y aura une mésentente. Mmh. Et les deux n'arrivent pas à s'accepter. Et parce qu'ils ont des personnalités différentes. Mm-hmm. Par exemple, on dit, y a un exemple, un psychiatre qui dit que si Dieu veut punir la femme, il lui donne un mari paranoïaque. Parce que la personnalité paranoïaque, c'est une personnalité très autoritaire. Et comme elle est autoritaire, elle n'accepte pas certaines contradictions. Mm-hmm. Maintenant, il dit que si Dieu aussi veut punir l'homme, il lui donne une femme hystérique.
Hystérique, c'est-à-dire?
L'hystérie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caprices. Il fait des caprices à l'homme. Mm-hmm. Parfois, il se fait malade, alors que du point de vue
en
physique,
réalité,
il y a rien. Ouais. Et on va faire tous les examens, on ne voit rien. Mm-hmm. Donc, chaque fois, le mari est sur dans les centres de santé, mm-hmm. en train de dépenser. C'est juste pour attirer l'attention sur elle, mm-hmm. et avoir des bénéfices secondaires par rapport au mari. Mm-hmm. Voilà.
Est-ce qu'au niveau de vos centres de santé, vous recevez des cas de personnes qui effectuent ces violences-là sur des personnes vulnérables, qui veulent vraiment cesser mais qui n'arrivent pas?
Oui, parfois on reçoit des gens qui viennent pour dire que y a certains comportements qui les arrivent, mm-hmm. ils le font malgré eux et ils n'arrivent pas à s'en mm-hmm. débarrasser. Donc, et si ça vient, ils ne se contrôlent même pas, et ainsi de suite. Donc il y a des genres de cas qu'on reçoit, mm-hmm. mais parfois on met ça dans le rubrique de la maladie mentale.
D'accord. Voilà. Depuis la mi-décembre, le monde entier fait face à la pandémie du coronavirus. De la majorité des pays, un confinement total a été instauré pour éviter la propagation de la maladie. Du coup, les violences exercées sur le genre se sont multipliées. Monsieur Alzouma?
Oui.
Bien qu'ici au Niger, il n'y ait pas eu de confinement total, comment se présente la situation en cette période?
Bon, c'est vrai, avec le confinement, donc, bien que partiel, nous avons quand même constaté un regain de ce phénomène de violence parce que entre le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai, nous avons carrément constaté le taux, en tout cas, de cas que nous avons reçus ici au niveau de notre centre, mm-hmm. a pratiquement doublé. Mm-hmm. Et je m'en vais donner pour exemple, en février, par exemple, nous avons reçu et nous avons enregistré 19 cas.
19 cas?
19 cas. Mm-hmm. Donc, toutes formes confondues. Mais déjà en mars, nous avons enregistré 44. 44. Donc, c'est pratiquement 4 fois le nombre que nous avons obtenu en février. Et en avril, nous avons atteint le chiffre de 61 cas.
61
donc
cas.
Là aussi, vous voyez, pratiquement, il y a eu vraiment une montée en flèche de ces cas de
violence.
De femmes et jeunes et enfants victimes de violence.
Mm-hmm. Et quelles sont les violences les plus enregistrées parmi tous ces cas-là que vous venez de citer? Quelles sont les plus? Est-ce que ce sont les violences physiques, sexuelles ou je ne sais pas?
Oui, je pense que par ordre de grandeur, il y a la violence psychologique quand même qui est la plus marquée et suivie de l'agression physique. Donc c'est en tout cas les deux formes quand même qui sont les plus qui ont été les plus enregistrés au niveau de notre centre, la violence physique et la violence psychologique. Mais quand même, il y a eu aussi un nombre important d'agressions sexuelles. Les agressions sexuelles, bon, c'est pas, comme je l'ai dit tantôt, en dehors du viol, parce que le viol, c'est quand il y a pénétration, alors que les agressions sexuelles peuvent être des tentatives de viol, des attouchements, des harcèlements. Donc tout ça, là, ça aussi, on a constaté quand même beaucoup de plaintes par rapport à des agressions sexuelles, peut-être dû au fait de la promiscuité dans les maisons et avec le confinement.
D'accord. Et vous êtes généralement sur le terrain. Dites-nous quelles sont les zones les plus touchées ou bien les zones où ces violences sont vraiment fréquentes.
Bon, maintenant, on ne peut pas dire que telle zone est quand même, il y a beaucoup plus de violences que telle autre, mais quand même, tout ce qu'on peut retenir, c'est que la violence, là, elle est présente partout. Et au niveau de toutes les villes de notre pays, on enregistre beaucoup de cas. Au niveau de toutes les ethnies, on enregistre. Au niveau rural et au niveau urbain, on enregistre. Donc, vraiment, cette violence-là, elle est présente partout. Et je pense que c'est ça même qui est alarmant et qui doit nous interpeller par rapport à la manière avec laquelle nous allons nous organiser pour apporter des solutions à cela.
D'accord. Madame Tamponé, les violences basées sur le genre est une réalité ici au Niger, comme l'a indiqué tout de suite le chargé de programme, M. Alzouma. Êtes-vous conscient de ça au niveau du ministère de la promotion de la femme?
Ah oui, au niveau du ministère, on est très conscient de ça. Et vraiment, c'est une préoccupation. Donc, dans ce cadre même, on a élaboré une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, avec son plan d'action qui est en cours d'exécution. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée à
Monsieur
Alzouma, pendant la période de COVID,
Donc
il y a eu le 12 mai une réunion de coordination du cluster VVG. Donc, vraiment, ils ont enregistré des résultats au niveau de Niamey. De mars à avril, on a enregistré 265 cas. Au niveau de Zander, 189 cas. Au niveau de Maradi, 208 cas. Tilaberi, 294 cas. Tawa, 106 cas et DIFA 361 cas.
Visiblement, DIFA a plus de cas. Qu'est-ce qui expliquerait cela?
Vous savez, la zone de DIFA, c'est une zone d'insécurité. Et il y a plein de réfugiés qui sont également les camps de réfugiés. Là aussi, tout ça, là, on compte les violences qui sont au niveau de ces camps-là.
Effectivement. Et de quand on parle de violences qui sont plus accentuées suite au confinement, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela?
Effectivement, le confinement peut engendrer des cas de violence basés sur les gens. Parce que le couple, les enfants, tout le monde est à la maison. Parfois, il y en a qui ne sont pas tolérants. Et donc, vous voyez, ça peut entraîner des violences
entre toute la famille. D'accord. Monsieur Sidikou, les violences physiques est visiblement la plus enregistrée, si on peut le dire. Comment comprendre cela?
Bon, et avant de répondre à votre question, je vais revenir sur les violences pendant la période de confinement.
Le confinement, oui.
Et il faut aussi ajouter que le fait que, par exemple, les gens sont toujours ensemble. Et si, par exemple, le mari, c'est un addictif, c'est-à-dire quelqu'un qui prend de l'alcool ou de la drogue, le fait de ne pas avoir cette substance, ça fait un syndrome de manque. Et ce syndrome de manque va provoquer une agressivité sur les membres de la famille. Donc ça peut provoquer une violence. Et en plus de ça, le fait que les gens sont toujours ensemble, ça peut provoquer aussi ce qu'on appelle l'addiction sexuelle. Le fait que les gens sont toujours ensemble, donc les gens vont s'adonner au rapport sexuel matin et soir. Parce qu'ils sont toujours, ils n'ont rien à faire. Donc ça aussi, ça peut provoquer, ça peut être une agression pour la femme ou bien pour l'homme, en fonction de celui qui demande. Voilà. Donc ça aussi, c'est des agressions sur lesquelles il faut noter pendant la période du confinement.
D'accord.
Maintenant, par rapport aux violences physiques dont vous parlez, et vous dites comment?
Oui, les violences physiques, on voit qu'elles sont beaucoup plus enregistrées, si on peut le dire, après les violences sexuelles. Qu'est-ce qui expliquerait cela?
Bon, ça, c'est on peut aussi revenir et mettre ça sur l'action de l'actif de la drogue. L'alcool, drogue, ça aussi, si la personne prenait ça, il peut être violent à l'égard de son partenaire. En dehors de ça, aussi, la pauvreté. La pauvreté peut aussi provoquer une mésentente dans le couple. Et ça peut conduire à des violences physiques.
On fait face aussi à certaines violences. Il n'y a pas que dans les couples, dans les services, dans la société. Les personnes font face à certaines violences. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela? Comment expliquer cela?
Bon, on peut expliquer cela que par rapport au manque de compréhension. Et tout de suite, je disais qu'il y a certaines personnalités qui ne sont pas compatibles. Donc l'incompatibilité de ces personnalités, s'ils sont ensemble, peut conduire à ces violences. Parce qu'il y a ceux qui supportent, il y a ceux qui ne supportent pas.
D'accord.
Donc pour un moins rien de rien, et la personne peut s'emporter. Et il peut agresser. Et l'agression, ça peut être physique, ça peut être verbal.
D'accord.
Voilà.
Alors, Monsieur Alzouma, de par les chiffres que vous avez avancés tout de suite, les violences enregistrées en cette période de COVID-19, si on doit faire une comparaison, est-ce que ces chiffres sont en baisse ou bien en hausse?
Non, si on doit comparer les chiffres en temps normal et en contexte du COVID, c'est bien en hausse. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des mois où on a constaté que les chiffres ont même triplé ou doublé. Donc, vraiment, dans le contexte du COVID, il y a eu une recrudescence des viols et des violences du moins. Et je pense que l'explication que le psychologue a donnée, c'est vraiment une explication qui tient. Et le fait d'être à la maison, tout le temps, donc confiné, ne pas pouvoir sortir, ça peut irriter la personne. Et le fait aussi qu'il y ait beaucoup de demandes de part et d'autre qui ne sont pas satisfaites, ça aussi, ça peut être en tout cas un facteur favorisant. Parce que c'est des facteurs qui favorisent la survenue des violences. Ça ne peut pas être considéré comme étant les causes, mais des facteurs favorisants. Donc là, peut-être dès que le confinement va finir, vous allez voir que peut-être les chiffres là vont baisser. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu encore une étude en profondeur qui va en tout cas déterminer le pourquoi. Mais quand même, a priori, nous pouvons avancer ces choses-là pour expliquer pourquoi il y a eu cette recrudescence de violences dans les foyers.
Alors, Monsieur Sidiku, je reviens toujours vers vous. Toutes ces victimes, les victimes de ces violences, quelles sont les répercussions qui peuvent avoir à long terme?
Oui, les répercussions, c'est les répercussions psychologiques, et voire même psychiatriques. Parce que le problème psychologique peut conduire à un problème psychiatrique. Psychiatrique, ça veut dire que maintenant la personne est déjà devenue un malade mental. Maintenant, le fait de ruminer ce problème psychologique pendant longtemps, sans traitement, ça peut conduire à un problème, à un trouble mental. Et dans la majorité des cas, ces violences conduisent à des traumatismes psychologiques. Maintenant, ça peut être une dépression réactionnelle, ça peut être un syndrome post-traumatique, Donc tout cela, si ça n'a pas eu une prise en charge de façon précoce, ça peut conduire à un trouble psychiatrique.
Mm-hmm. Voilà. Est-ce que vous recevez déjà des patients qui sont victimes de violences?
Ça, c'est chaque fois. Chaque fois. Peut-être que pour les agressions physiques, c'est du cas au cas, c'est mm-hmm. un peu rare. Mais pour les problèmes de conflictuels mm-hmm. dans le couple, ça c'est chaque jour. Mm-hmm. Chaque jour.
D'accord. Madame Tamponné, de Quin pense que la violence basée sur le genre non seulement viole les droits fondamentaux des femmes et des filles, mais elle constitue un obstacle majeur à l'épanouissement de ces femmes en tant que forme de discrimination violente. Alors, au niveau de votre institution, qu'est-ce qui est fait vraiment pour assurer protection et un meilleur épanouissement à ces femmes?
Pour vraiment apporter un soutien aux femmes violentées, donc parfois on fait des activités génératrices de revenus pour les femmes, pour qu'elles puissent s'évanouir, pour qu'elles puissent avoir quelque chose mm-hmm. pour vraiment satisfaire ses besoins. Mm-hmm. Donc il y a plusieurs projets vraiment qui appuient les femmes.
Dans toutes les régions du Niger.
Dans toutes les régions du Niger. Mm-hmm. Il y a également un projet, une nouvelle initiative depuis 2019 mm-hmm. intitulée Spotlight. Mm-hmm. Et là aussi, c'est un grand projet qui couvre quatre régions, mm-hmm. à savoir Tillabéri, Maradi, Tawa et Zander. Mm-hmm. Donc, selon... Donc, on a pris surtout les quatre régions qui subissent vraiment plus de violence.
D'accord. Monsieur Alzouma, pour toutes ces victimes de violences basées sur le genre, quelles sont les voies de recours?
Bon, généralement, nous, au niveau de l'ONG SOS, nous avons quand même mis en place un dispositif pour assurer, en tout cas, la gestion de ces violences. L'ONG est spécialisée, comme vous le savez, dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux familles et aux enfants. Et nous faisons des activités de prévention. Donc, maintenant, quand la violence survient, en ce moment-là, ce n'est plus de la prévention qu'il faut faire, mais il faut la gérer. Et la gestion de la violence, ça passe par la prise en charge. La prise en charge, elle est de plusieurs ordres. Et c'est en fonction du besoin de la victime. Quand la victime vient, on l'accueille, on l'écoute, on fait l'inventaire de ses besoins et en fonction de ses besoins, on essaie d'apporter une réponse. Et ça peut être une prise en charge sanitaire, ça peut être une prise en charge. Et si c'est une prise en charge sanitaire, là, on réfère le cas au niveau des services de santé appropriés pour cela. Et là, on passe par la police qui donne une réquisition à la personne ou la gendarmerie et on demande l'expertise avant de procéder vraiment à la prise en charge sanitaire. Si c'est une prise en charge psychologique, d'ailleurs, tous les cas qui passent ici ont besoin d'avoir à prévenir la prise en charge psychologique. Et là, il faut un spécialiste, il faut un psychologue. Nous en avons des psychologues qui assurent la prise en charge psychologique ici. Mais aussi, nous travaillons en étroite collaboration aussi avec certains psychologues qui sont dans d'autres institutions, notamment l'Hôpital national du monde. En dehors de ça aussi, il y a la prise en charge juridique et judiciaire. La prise en charge juridique, c'est quand la personne a besoin de conseils. De conseils juridiques, on a des juristes qui en donnent. Si c'est un accompagnement, si une prise en charge judiciaire, là, on la serva au niveau des tribunaux, en ce moment-là, on appuie la personne avec un conseil par exemple, un avocat, il va suivre tout le processus au niveau de différentes juridictions. Donc, ça peut aussi être une réinsertion socio-économique. Quand, par exemple, la femme a un besoin d'être appuyée, comme Mme Tamponné vient de dire, de lui dire, là, en ce moment-là, et de voir dans quelle mesure faire pour cette femme une activité de la source de revenus, il va lui permettre d'être autonome. Donc, en ce moment aussi, avec la survivante, on essaie de faire tout le tour pour voir quelle est l'activité la plus appropriée pour cela. La réinsertion socio-économique aussi, la réintégration de la survivante dans son milieu d'origine. Et là aussi, il y a tout un mécanisme donc, qui se met en place pour que cela soit effectif. Donc, d'une manière ou d'une autre, je l'ai dit, de l'entrée de la victime ici jusqu'à sa sortie, est vraiment un processus. Et il ne faut rater aucun maillon de la chaîne pour que la prise en charge soit vraiment effective, pour que la prise en charge soit une prise en charge complète et aussi qu'ils puissent porter ses fruits. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt du processus. Donc, c'est vraiment un processus qui est continu, qui est dynamique et qui se fait avec la survivante pour avoir le résultat vraiment escompté.
Alors, Monsieur Sidiku Amadou, cette prise en charge psychiatrique, comment psychologique autant pour moi, comment elle se fait? Le traitement, c'est avec des médicaments, des conseils? Comment ça se passe?
Bon, ça se fait par exemple, on fait un entretien à la victime ou au patient qui est venu. Après l'entretien, donc c'est un entretien d'évaluation. Si on évalue, maintenant, si on voit que la victime ou bien le patient doit prendre à des signes psychiatriques, on l'envoie, c'est le psychiatre qui va lui prescrire ce traitement médicamenteux. Maintenant, si on voit que vraiment c'est un problème purement psychologique, maintenant c'est le psychologue qui va l'accompagner à partir des entretiens, de rendez-vous, chaque semaine, un entretien par semaine. Voilà, on fait un accompagnement, ça peut être un mois, deux mois, jusqu'à six mois, en fonction de l'évolution de la situation.
Madame Tamponé, comme l'a expliqué un peu Monsieur Alzouma, donc au niveau de votre ministère, vous êtes en partenariat avec ce genre d'ONG pour venir à bout de ces fléaux?
Tout à fait. Nous,
comment se fait ce partenariat?
Nous sommes en parfait partenariat avec les différentes structures de prise en charge, surtout ONG, SOS, femmes et enfants victimes de violences. Nous, chez nous, au niveau du ministère, nous recevons aussi des cas. Mais nous, on ne fait que l'orientation vers ces structures-là, vers l'ONG, SOS, ou bien au niveau de la division, au niveau du commissariat central de la protection des femmes et enfants. C'est surtout à ce niveau-là qu'on fait l'orientation des victimes.
Et ce sont des cas que vous recevez de tout le Niger ou bien...
Non, de Niamey
surtout.
Niamey seulement, Sinon, au niveau des régions, vous avez des... là aussi, au niveau des directions régionales, elles en reçoivent également. Bon, je vais me baser sur l'étude. Selon l'étude, la région de Zander et Maradi, suivie, je crois, de Tillabéri et de Tawa, sont selon les classements que l'étude a eu à faire.
Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre cette émission. Monsieur Sidiku, toutes ces victimes de ces violences basées sur le genre, vraiment, comment les aider à surmonter toutes ces souffrances-là?
Comment les aider, c'est surtout l'accompagnement psychologique dont je parle. Maintenant, ça dépendra des familles, ou bien ça dépendra des ONG qui vont les référer pour la prise en charge psychologique. Donc, dès que la personne arrive, nous, en tant que service de prise en charge, on les accompagne.
Et en famille aussi, comment ça doit se passer?
En famille, on appelle la famille. Parfois, il y a un entretien avec les membres de la famille. D'abord, un entretien avec la victime, en plus, un entretien avec les membres de la famille. Et dans la majorité des cas, la prise en charge est interrompue par la famille. Parce qu'il y a certaines choses que la famille ne veut pas dévoiler. Donc, en ce temps, la prise en charge doit être interrompue.
D'accord.
Voilà. Ou bien il y a des familles qui refusent même, certains membres de la famille qui refusent de répondre à l'appel du psychologue.
Voilà. Alors, Monsieur Alzouma, comment mieux agir contre toutes ces violences basées sur le genre ici au Niger?
Bon, comment mieux agir? Moi, je pense que il est nécessaire quand même qu'il y ait une synergie d'action. Vous savez, l'impact des violences basées sur le genre dépasse la seule victime. Et s'étend à l'ensemble de la société. Donc, les stratégies à mettre en place pour éradiquer la violence doivent par conséquent être élaborées selon une approche globale et holistique qui implique plusieurs facteurs. Parce que aucune institution n'a l'apanage, en tout cas de la prise en charge des ventes. C'est quelque chose qui implique beaucoup de secteurs. Notamment, tout à l'heure, on avait parlé de l'aspect médical, qui nécessite une prise en charge médicale. Il y a l'aspect psychologique. Il y y a l'aspect juridique et judiciaire,
mm-hmm.
il y a l'aspect réinsertion socio-économique.
Mm-hmm.
Donc vous voyez, c'est vraiment un mécanisme qui prend en compte beaucoup d'acteurs.
Mm-hmm.
Et tous ces acteurs-là doivent se mettre ensemble pour accompagner d'abord les survivants du point de vue pris en charge.
D'accord.
Mais de l'autre côté aussi, avant que cette violence ne survienne, il faut mettre en place aussi un dispositif de prévention.
De prévention, justement.
Qui va faire en sorte que, parce que nous, notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus de violence.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, l'accent doit être mis sur la prévention.
D'accord.
Mais maintenant, si la violence survient, là, on est obligé de prendre en charge.
Mm-hmm.
Donc, voilà pourquoi la plupart des activités sont centrées sur la prévention.
Mm-hmm.
On lutte pour qu'il n'y ait plus de violence. Donc, je pense que c'est ça qui doit être le moteur pour les structures qui interviennent dans les domaines des violences faites aux femmes et aux enfants.
Mm-hmm. Votre vision, est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver un jour à un Niger sans, violence basée sur le genre à travers les luttes que vous menez?
En tout cas, nous fondons l'espoir d'un Niger sans violence, sans discrimination.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Là, c'est vraiment notre credo, c'est ça notre idéal.
D'accord.
Et je pense que c'est un pari qu'on peut gagner si tout le monde s'implique à tous les niveaux,
mm-hmm.
au niveau des lois, de l'application, au niveau d'abord de l'élaboration des lois qui sont conformes à nos réalités.
Mm-hmm.
Au niveau de l'application de ces lois, moi je pense que si on met l'accent là-dessus, et au niveau aussi de la conscientisation de la population par rapport à ce phénomène de violence.
D'accord.
Et je pense que c'est un pari qui est possible, on peut le faire et on peut le gagner.
Ok. Madame Tamponé, alors que faire davantage pour vraiment protéger les femmes contre toutes ces violences?
Vraiment, pour protéger les femmes contre les violences basées sur le genre, c'est surtout, comme l'a dit Alzouma, il faut vraiment privilégier la prévention.
Prévention, oui.
Et sensibiliser les hommes et les femmes pour qu'ils puissent vivre en harmonie.
Mm-hmm.
Et également, il y a plusieurs textes qui protègent les droits des femmes et des hommes,
des
les droits humains de mm-hmm. manière générale. Vraiment, il faut les respecter.
Mm-hmm.
Et également, il faut réduire les inégalités de genre, qui sont vraiment une cause fondamentale
des
violences basées sur le genre.
D'accord. Vous, Monsieur Sidikou, quel conseil aux auteurs de ces violences pour finir?
Le conseil, c'est de savoir pardonner. Maintenant, sensibiliser pour que tout le monde comprenne. Effectivement, c'est lié à nos mentalités.
Mmh.
Et les mentalités, on dit qu'on ne peut pas changer les mentalités par les décrets-lois.
Mmh.
On ne peut passer que par la sensibilisation pour prévenir à tout cela.
Mmh.
Et c'est dans cette sensibilisation qu'on doit conseiller les familles et les parents. Par rapport à ce qui peut survenir.
Mmh, mmh.
Parce que ça surtout les faire comprendre que ça a des problèmes psychologiques importants qui peuvent conduire jusqu'à la maladie mentale.
Mmh, mmh.
Voilà.
Monsieur Alzouma, nous sommes prêts, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot?
Mon dernier mot, c'est vraiment de lancer un appel aux partenaires techniques et financiers. Donc, vraiment de redoubler de fort, de nous appuyer pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et aujourd'hui aussi, je profite de cette antenne pour parler aussi d'un phénomène qui mine en tout cas le développement de beaucoup de femmes, c'est les réfugiations sans pour autant respecter les préceptes de l'islam qui a prévu cette réfugiation-là. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent. Et on a reçu beaucoup de femmes qui sont meurtries dans leur chair parce que tout simplement, elles sont victimes de réfugiation et une réfugiation qui ne prend pas en compte les besoins des femmes et des enfants dans cette situation-là. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont de laisser pour compte, il y a des femmes qu'on laisse avec des enfants sans aucun apport, sans aucun soutien. Moi, je pense que ce genre de choses-là, on doit les revoir. Nous avons déjà en 2010 fait un avant-projet de loi pour réglementer la réfugiation au Niger. Et nous nous sommes basés et pas sur des textes de loi, mais quand même nous sommes basés sur les préceptes de l'islam, à savoir le Coran et les hadiths, pour qu'en cas de répudiation, qu'on puisse en tout cas contraindre l'auteur de cette répudiation-là de respecter ce que l'islam et le Coran a prévu dans ces situations. En 2010, nous avons remis cet avant-projet de loi au ministère de la promotion de la femme qui restait lettre morte. Donc, sans suite, et ce travail a été fait par le cadre de concertation des intervenants en matière de lutte contre les violences aux femmes et aux enfants, qui est un regroupement de beaucoup d'ONG et associations qui interviennent dans le domaine de l'EDG. Madame Tamponi en sait quelque chose. En 2010, je ne sais pas à quel niveau elle se trouve, mais quand même, en 2010, nous avons remis ce document-là à la ministre. Peut-être qu'il est en train de moisir dans le tiroir du ministère. Je pense que c'est ici l'occasion de lancer un grand appel au niveau des autorités pour qu'on puisse vraiment dépoussiérer ce dossier-là, le regarder et puis essayer de prendre ce qui peut être important pour nous et ce qui peut apporter une solution aux souffrances de beaucoup de femmes et des enfants au Niger.
Monsieur Alzouma, peut-être Madame Tamponi, vous avez un mot à dire sur ce qu'il vient de dire sur le document transféré au ministère.
Le projet de loi sur les violences basées sur le genre. Oui. Effectivement, rapidement. Moi aussi, j'ai trouvé ce texte-là. Vraiment, et c'est toujours en instance. Ça n'a pas été ratifié, adopté.
On espère bien qu'il soit adopté dans les plus brefs délais. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Chers auditeurs et auditrices, comme vous l'avez si bien entendu de par les interventions de nos invités, les violences basées sur le genre sont une réalité. C'est une réalité ici au Niger. Les femmes et les enfants en sont les grandes victimes. Il faut donc un bon suivi et il faut que tout un chacun s'y mette, y apporte sa contribution pour une meilleure lutte contre toutes ces violences et mettre fin à ces violences ici au Niger. Nous étions donc avec Madame Tamponi Safiatou, directrice promotion du leadership féminin au ministère de la promotion de la femme et la protection de l'enfant. Merci à vous, Madame. Monsieur Sidiku Amadou, il est psychologue clinicien au service psychiatrie de l'hôpital national. Merci à vous.
Merci.
Et Monsieur Alzouma Traoré, chargé des programmes à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Merci Monsieur Traoré. À la présentation, c'était Nafissa Adam Silfo, à la technique Issa Kalawali, à la régie vidéo Mustapha Ayouba et Adama Dawaki. À bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalangu. Au revoir.